On continue la petite série d'études sur les différentes positions qu'on a en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a encore une à voir qui est intéressante parce que ça va nous, si on la comprend dans le bon sens, on va continuer à grandir dans le Seigneur. On va continuer à s'affirmer. On va devenir encore plus productif, plus de fruits. On a parlé qu'on était des arbres fruitiers, mais on porte du fruit parce que c'est Dieu qui vient le produire, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, si on comprend cela, on va en porter encore plus. Parce qu'on va voir que nous sommes, grâce au Christ, devenus des ouvriers du Seigneur. Puis qu'est-ce que ça fait un ouvrier? Mais ça fait de l'ouvrage. Puis quand tu travailles, t'es payé. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu comprends ça, qu'on est des ouvriers du Seigneur. On n'est pas les ouvriers de n'importe qui. En fin de compte, là, ce qu'il faut comprendre, bon, on a plein de choses qu'il faut comprendre, mais on s'y rappelle parce qu'on a sûrement déjà entendu parler. Tout le monde sur la planète est un ouvrier. Sauf on n'est pas tous des ouvriers du Seigneur. On est tous en train de travailler pour quelqu'un. Qu'on s'en rende compte ou pas. Puis il y a juste deux boss. Il y a Dieu puis le diable. Il y a deux camps, il y a deux royaumes. Puis il faut que tu t'arranges pour travailler pour le bon. Parce que le salaire est pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Amen. Il faut réaliser pour qui on veut travailler, puis il faut prendre la décision de s'engager à travailler pour le Seigneur. Il y a beaucoup de monde qui ont même pas l'idée, pas en tout, là, ils ont même pas l'idée de vouloir servir Dieu ou un Dieu. Leur vie est vouée dans tout ce qui les entoure. Que ce soit de profiter de tout. La Bible a dit, il appelle ça des impies. Impies, c'est du monde qui sont non-pieux. Non-pieux, c'est du monde qui prie pas, du monde qui veulent rien savoir de la piété, de prier un Dieu quelconque. Fait que tous les impies, les gens qui veulent pas prier, sont tous comme déjà catégorisés de ceux qui servent pas le Seigneur, parce que ils connaissent pas, puis ils veulent pas le servir. Tandis que, malheureusement, il y a des gens aussi que la Bible nous dit, c'est des gens religieux. Ils ont des religions, ils sont pieux. Mais ils servent pas le vrai Dieu. C'est là qu'est le malheureusement. Parce qu'ils ont beau être bien intentionnés, t'as beau être très convaincu de ce que tu es en train de faire, puis tu peux être sincère, puis être sincèrement dans l'erreur, pas dans le bon chemin, être en train de servir celui que tu pensais pour. Chaque individu, sans exception, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, qui n'a pas décidé, là, quelque part dans sa vie, de réaliser qu'il est un pécheur, puis de réaliser que Jésus est mort sur la croix pour pardonner ses péchés. Si les gens n'ont pas réalisé cela, que Jésus, c'est le seul chemin, puis qu'il n'a pas d'autre, mais la Bible a dit, ils sont sans Dieu. C'est aussi sévère, puis aussi simple. C'est simple parce que tout est centré sur Jésus. Dans Éphésiens 2:12, ça nous dit, avant de connaître le Christ, ça nous dit, vous étiez en ce temps-là sans Christ, parce qu'on le connaissait pas, on le savait pas, on nous avait dit des choses, mais on était religieux, peut-être qu'on allait à l'église à tous les dimanches, mais on était sans le Christ parce qu'on n'avait pas compris sa mission, puis comment est-ce qu'on pouvait faire pour saisir son cadeau. Puis on était privé du droit de cité en Israël, on était étrangers aux alliances de la promesse, parce que il y a des alliances que Dieu a faites avec les hommes, on était étrangers des alliances, mais on était sans espérance et sans Dieu dans le monde. Même si tu es assis dans une église, si tu connais pas personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es sans Christ et tu es sans Dieu. C'est grave. Il y a des millions, puis même des milliards de personnes religieuses qui sont assidues à leur réunion en train de louer leur Dieu, mais c'est pas Jésus, puis ils sont mêlés, puis ils savent pas, ils sont trompés, ils savent pas, ils sont perdus, ils savent pas, ils sont sans Dieu, ils savent pas. Si tu n'as pas mis Jésus au centre de ta vie, tu ne marches pas avec le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il s'est révélé à travers Yeshua, Jésus, le Messie, le Oint, le Fils de Dieu. Dieu lui-même fait homme. Il est venu se révéler. C'est pour ça qu'il dit celui qui a le Fils a le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Tu peux pas avoir le Père sans passer par le Fils. Jésus le dit autrement dans Matthieu 12, 30. Il dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Puis plus que ça, il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Si tu n'as pas centré ta vie sur Jésus, tu n'es rien, tu n'as rien, puis t'es sans Dieu dans le monde, sans espérance, il n'y a rien à faire. Puis si t'es pas en train d'assembler avec lui, ça veut dire tu travailles avec lui. Tu as conscience que tu es avec lui, qu'il est avec toi, que nous sommes en communion et nous travaillons ensemble. Faut que tu aies conscience que tu travailles avec Jésus, sinon tu peux pas assembler avec lui si tu travailles pas avec lui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Dieu, il y a des ouvriers du Seigneur, puis il y a les autres ouvriers qui travaillent pas pour le bon boss, même s'ils voulaient avoir tout ce que Dieu avait à donner. Les gens peuvent se penser ouvriers pour Dieu, mais aux yeux de Dieu, ils sont ouvriers de l'iniquité, du péché, du mensonge, de la tromperie. Ils sont ouvriers pour un faux Dieu sans qu'ils s'en rendent compte. Dans Luc 13, versets 26 à 27, ça nous dit que des gens qui vont arriver, quand Jésus va revenir, il dit que lorsque le maître de la maison se sera levé puis qu'il aura fermé la porte, ça c'est à son retour, il revient puis il ferme la porte. Pensez pas qu'il y a du monde qui vont être sauvés après l'enlèvement. C'est une fausse doctrine. Il y a deux passages qui nous dit, trois passages qui nous dit exactement textuellement que lorsque Jésus revient, la porte va être fermée. Puis là, il y en a beaucoup qui vont chercher à rentrer. Seigneur, ouvre-nous! Ça, c'est écrit dans Luc 13, 26. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Là, ils voulaient tous être sauvés. Puis là, ils disent, on marchait avec toi. On était devant toi. On t'écoutait enseigner même. Puis Jésus les reconnaissait pas comme étant avec lui. Puis la porte est fermée. Jésus dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. On parlait tantôt qu'il y a des ouvriers, que tout le monde est ouvrier. Oui, on est tous des ouvriers, mais on n'est pas tous des ouvriers du Seigneur. Faut le réaliser pendant qu'on est vivant, qu'on a à aller au Seigneur, centrer notre focus sur Jésus, puis à cause de l'œuvre de Jésus, je peux être pardonné. Puis maintenant, je peux dire que Dieu est avec moi et que je suis un ouvrier du Seigneur, sans avoir été à Jésus-Christ en premier de toutes, je veux dire. Mais tu peux pas te penser être un ouvrier du Seigneur. Jésus dit, je te connais pas. Jésus nous connaît pas. Si on n'a pas ce contact-là, cette communion avec lui, il nous connaît pas, puis on n'est pas un de ses ouvriers. Il nous appelle ouvriers d'iniquité. C'est pour ça que là, les enseignements nous amènent à comprendre notre nouvelle position qu'on a en Jésus. C'est à cause qu'on est né de nouveau, qu'on a faites la paix avec Dieu, qu'on a reçu Jésus comme notre sauveur personnel, qu'on est pardonné de nos péchés, puis que là, on a reçu le Saint-Esprit, puis là, cette nouvelle vie nous donne d'être, de commencer cette vie d'ouvrier du Seigneur. Depuis sa venue, le Seigneur cherche à recruter des ouvriers qui sont prêts à vouloir travailler dans sa vigne. Y a-tu des gens disponibles aujourd'hui qui sont prêts à travailler dans sa vigne, qui veulent être, ben, vous avez déjà été recrutés. Tous ceux que vous l'avez accepté, vous avez déjà répondu à son appel, puis il nous dit, viens, puis quand on répond à l'appel, mais c'est pour dire, je commence ma nouvelle job d'être un ouvrier du Seigneur, je dois travailler à sa vigne, j'ai été engagé, j'ai été enrôlé, ça nous dit dans Matthieu 20, le verset 1, car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Fait que vous êtes des ouvriers pour sa vigne.
Amen.
Dieu le Père, c'est un vigneron. Il a établi son vignoble. Puis il y a le tronc de la. Tout le monde sait que le cep, c'est le pied de la vigne. Et les sarments, c'est les branches. Fait qu'il nous a loués pour qu'on y aille travailler. Puis dans un autre paraphrase, ça nous dit qu'on est greffé à son cep. Puis on est alimenté de sa sève. On est des ouvriers du Seigneur. Maintenant, on travaille pour Jésus.
Alléluia!
Puis on travaille avec Jésus. Parce qu'on est des ouvriers du Seigneur. Puis il dit, quiconque assemble pas avec moi, disperse. Donc, il faut travailler avec lui. Voyant le besoin grandissant d'ouvriers, parce que Jésus, il est arrivé un moment donné, puis il y avait une foule devant lui, plein de monde qui était devant lui, puis il était tout comme des brebis sans berger. Jésus s'est mis à pleurer de voir toute cette gang de monde-là qui était là, puis qui avait besoin. Jésus était sensible aux besoins des gens. Puis il était ému de compassion. Il a pleuré de compassion parce qu'il était touché de voir ce monde-là qui avait des besoins. Puis c'est là qu'il a dit, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Ça nous dit dans Matthieu 9, 36 à 38, il dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Le royaume des cieux semblable à un maître de la maison qui est sorti pour aller louer des ouvriers. Mais il dit, « Il y en a peu d'ouvriers. » Puis c'est vrai qu'il n'y a pas gros d'ouvriers. Il n'y a même pas assez d'ouvriers là pour mettre une église à chaque ville, à chaque village de la planète. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il devrait en avoir dans toutes les villes, dans tous les villages. Ça devrait être, il dit de prier pour cela. Ça devrait être un de nos sujets de prière dans notre liste de prières. Prier que Dieu envoie d'autres ouvriers, que Dieu ouvre des églises dans toutes les villes, dans tous les villages, pour qu'il y ait du monde pour rencontrer les besoins des gens. Jésus voit tout le monde comme une foule languissante, abattue, sans berger, qui ont besoin d'ouvriers pour aller s'en occuper. Des gens qui vont aller travailler à sa vigne. Il faut réaliser l'importance de travailler en équipe avec Jésus. Parce que là, il nous a appelés à sa vigne, mais il veut travailler en moi et par moi. C'est pour ça qu'on commence ce travail-là avec le Seigneur, d'assembler avec lui une fois que tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Parce que la Bible a dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, puis si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Jésus vit en moi. Jésus vit en chacun de vous qui l'avez reçu. Jésus est là. Faut le réaliser. Il est en moi, puis il faut que j'assemble avec lui. Ça veut dire qu'il faut que je prenne conscience qu'il est là, puis il veut travailler à travers moi, en moi. Puis je dois travailler avec lui. Il faut que je sois volontaire, premièrement. Il faut que je sois empressé de vouloir faire des pas pour y aller travailler. Ben, si je suis paresseux, puis je reste chez nous, puis je fais rien, je peux bloquer son action qu'il aurait voulu faire à travers de moi. Ils disent, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis dans la chair, ben, s'il dit, si je suis encore vivant dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, puis qui s'est livré lui-même pour moi. Fait que, faut réaliser que Jésus, quand t'es né de nouveau, il est entré en toi, puis il veut œuvrer à travers toi, avec toi. S'il n'est pas là, Parce que soit que tu n'es pas né de nouveau, t'as pas, ou soit que tu n'as pas cru du tout, puis tu n'es pas arrivé encore à la nouvelle naissance, tout ce que tu vas faire pour Dieu, c'est de la religion. Comme la religion qu'on avait avant de naître de nouveau. On peut être assis dans une église évangélique et pas encore être né de nouveau, puis on est en train de faire de la religion. Si on a perdu le contact, c'est comme le quartier général est en haut, puis nous, on est en bas, puis on a un CB qui nous permet de communiquer. Si on a perdu la communication, il faut s'empresser à la retrouver pour qu'on soit sûr d'être à la bonne position au bon moment, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Il faut garder la communication claire. Si le contact s'est perdu, faut demander pardon au Seigneur, faut demander au Seigneur de renouveler ce contact-là, puis il va le faire, parce que Dieu manque d'ouvriers, puis il nous aime comme ouvriers, sauf que si on n'est plus en train de travailler, puis il nous trouve sur le bord du chemin en train d'attendre, puis on ne sait pas pourquoi qu'on attend, mais il va nous dire, allez-y, travaillez, je vais vous payer, inquiétez-vous pas, mais il va nous payer. Puis là, c'est un très bon fonds de pension. Le danger, une fois que t'es né de nouveau puis que tu l'as reçu, Seigneur, le danger, c'est de travailler pour Dieu sans Jésus. Ça s'appelle de la religion. Tu peux être chrétien, puis à quelque part, avoir mis de côté ta relation, tu l'as pas entretenu, tu n'as pas fait attention, tu négliges ta relation, puis là, tu n'as plus de contact. C'est comme si être marié avec quelqu'un, puis y parler à ta femme ou à ton mari pendant des semaines, des mois, un an, deux ans, tu n'y parles plus. Ils sont tous les deux colocs, ils vivent tous les deux dans le même logement, mais ils ne se parlent plus. La relation, c'est pas travailler en équipe si tu ne te parles plus. Puis ça, faut faire attention qu'avec le Seigneur, ça se passe pas la même affaire, qu'on néglige notre contact, on y parle plus, on l'écoute plus, parce qu'il veut nous parler, il nous parle dans les prédications, il nous parle en lisant notre Bible, il nous parle dans nos rêves, il nous parle par des frères et sœurs, il nous parle, mais on a les yeux et les oreilles bouchées comme le peuple juif, et ce peuple là, ils ont des yeux pour voir, mais ils voient point, puis des oreilles pour entendre, ils n'entendent point, puis le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fermé même leurs yeux, puis fermé leurs oreilles pour pas entendre. Parce que tu peux être chrétien et t'endurcir à la voix de Dieu. Puis si t'es endurci, puis tu le vois plus, puis tu l'entends plus, t'es comme un aveugle qui s'en va en tâtonnant. Tu sais pas où tu t'en vas. Faut que tu reviennes dans ton contact, dans ta relation, pour être sûr que tu es encore sensible à la voix de Dieu, pour découvrir ton appel, découvrir ce qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu œuvres dans sa vigne, puis il nous assigne des tâches différentes. Tu peux être debout dans une position de la job d'un autre, que c'est un autre que Dieu voulait mettre là, mais toi, tu veux prendre sa place, puis là, ça va créer un désordre, quelqu'un qui ne sera pas à sa place, puis l'autre, il n'accomplira pas ce qu'il était supposé de faire. Fait qu'il faut se découvrir notre position en Jésus. Pour cela, il faut être à son écoute. Voyez-vous? Lorsqu'on sait que nous sommes ouvriers avec Jésus, il faut apprendre à faire la différence entre ce que Dieu doit faire et ce que je dois faire. Tu es un ouvrier avec Jésus. Donc, Jésus a de l'ouvrage à faire, puis moi, j'ai de l'ouvrage à faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le 6 à 9, ça nous dit, là, ça parle comme au niveau de l'évangélisation, mais quand même, puis il dit, j'ai planté, c'est l'apôtre Paul qui parle, Apollos y a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte, c'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Là, faut comprendre une vérité, là. Moi, j'ai un job à faire. Mon frère, mes frères et sœurs ont de l'ouvrage à faire. L'un va planter, l'autre va arroser. Puis on est égaux, puis on recevra nos récompenses selon notre travail en tant qu'ouvrier du Seigneur. Mais c'est Dieu qui fait croître. Puis si c'est Dieu qui fait croître, Dieu va faire sa job. Moi, j'ai la mienne à faire, lui a la sienne à faire. On travaille ensemble. On est des ouvriers avec Dieu. C'est important de le répéter. On ne peut pas être en train de travailler à l'évangélisation et de faire de l'évangélisation sans penser que Dieu, lui, est en train de faire son œuvre pour les amener à croire. Parce que tu peux travailler et complètement oublier qu'il fallait que tu pries Dieu pour combattre, parce qu'il y a un combat spirituel, puis tu oublies le côté du travail de Dieu. Puis de l'autre côté aussi, penser que Dieu va tout faire la job, puis que toi, tu n'as rien à faire pour évangéliser. C'est autant ça là aussi. Il faut comprendre qu'on a chacun nos rôles, puis tout va bien s'accomplir en autant qu'on comprend que j'ai un rôle, vous avez un rôle, puis Dieu a son rôle. Parce qu'on travaille pour la vigne. Puis la vigne, c'est la vigne du Seigneur. Puis le Seigneur, lui, inquiétez-vous pas, il est fidèle, puis il va faire ce qu'il a à faire. Je suis pas inquiète pour le Seigneur. Je suis plus inquiète pour nous autres. Est-ce que nous, on va faire ce qu'on a à faire? Bonne question. Concrètement, voici comment nous travaillons avec Dieu. Je dis bien avec Dieu et non pas pour Dieu. Parce qu'il dit que celui qui assemble avec moi. Donc, il faut toujours que tu sois en partenariat avec Jésus en train de faire ce que tu as à faire. Puis on va voir des versets qui sont écrits là, en prenant conscience de cela, qu'on va s'apercevoir que pourquoi que différentes pensées aussi dans le monde évangélique. Là, on va voir qu'il y en a des positions qui sont bien à cheval sur un bord, puis il y a d'autres positions qui sont bien à cheval sur l'autre bord, puis on va voir que la pensée biblique est entre les deux. On va parler, comme par exemple, dans l'évangélisation. Dans Jean 6, 44, Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Là, il est en train de dire, il n'y a pas personne qui peut aller au Père, dire être sauvé. si Dieu ne l'attire, donc le travail, la part de Dieu, Dieu attire les hommes. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, mais ils vont attirer tous les hommes à lui. Tous ceux qui doivent être sauvés vont aller à Jésus. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre pour attirer, pour que les gens soient sauvés. Fait qu'on voit que Dieu, si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé. Amen. Mais on voit aussi, dans un autre verset, dans Romains 10, 14, comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, on voit le travail de Dieu dans un verset, puis dans l'autre verset, on voit le travail de ses ouvriers. Si quelqu'un vient à Jésus, il a fallu qu'il en entende parler, sinon comment est-ce qu'il va avoir la foi? Oui, Dieu va travailler son cœur pour l'emmener. Mais Dieu a décidé de bâtir son système, qu'on travaille avec Dieu, puis que nous, on doit aller évangéliser. Amen. On va évangéliser, on fait notre ouvrage, puis Dieu va convaincre, puis va attirer à lui, il va faire la sienne. C'est un travail d'équipe. Il n'a jamais dit qu'il fera tout l'ouvrage tout seul, puis il n'a jamais dit que nous, on fera tout l'ouvrage tout seul. Quand je vais évangéliser, on va toujours évangéliser en pensant que Dieu est avec nous, le Seigneur va nous ouvrir les portes, il va nous donner parole, mais on est là, pareil, pour y aller. Puis lui fait la sienne, puis moi je fais la mienne. Puis Dieu a besoin des ouvriers. Il a besoin des personnes pour y aller avec lui. Il a choisi que le système est comme ça, puis je vais le répéter dans d'autres moments, parce qu'il faut le comprendre. Puis c'est comme si, en même temps, on essaye de se booster, s'encourager, pas perdre la vision de notre travail à faire en tant que chrétien. Au niveau de la conviction du salut, là, pour être convaincu, il y a un verset qui dit dans Jean 16, 8, en parlant du Saint-Esprit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu de convaincre. Puis on croit que Dieu y convainc parce qu'il nous a convaincus. Mais dans 2 Corinthiens 5, le verset 11, l'apôtre Paul qui parle, lui il dit, dans ces mots, dans ce verset-là, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Dans ce verset-là, son travail à l'apôtre Paul, il est en train de dire que moi, je suis un chrétien, j'ai la crainte de Dieu, puis ma mission, c'est de convaincre les hommes. Donc, ce qu'on est en train de voir, Dieu, le Saint-Esprit, convainc, et nous aussi, on doit parler de façon à convaincre. On travaille avec Dieu. On travaille pour le même travail. Dieu va convaincre, ben moi aussi, il faut que je convainque. Il faut que je travaille à convaincre. Il faut que je cherche à les convaincre. Il faut que je parle de façon à les convaincre. J'arrive aux gens, je commence à évangéliser, puis je commence à me plaindre des problèmes que je vois à l'Église. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il n'y aura pas de conviction. Il n'y aura pas. Vous avez travaillé contre Dieu. Parce que Dieu essayait de les convaincre de se repentir, puis de se greffer au corps de Christ, puis nous, on est en train de descendre l'Église, ben parler contre un, parler contre l'autre. On est en train de travailler contre Dieu. On travaille pas avec Dieu, on est en train de disperser. Voyez-vous, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quand on rouvre la bouche, il faut parler de façon à emmener les gens à être chrétiens, les amener à croire que l'Évangile, le plan du salut à travers Jésus, c'est le seul moyen d'être sauvé. Puis c'est à l'Église que ça se passe. C'est ici qu'est la prédication de l'Évangile. C'est ici qu'ils vont entendre parler. Mais oui, on sort, on va aller chercher, on les ramène, puis vous allez comprendre avec les autres versets ou s'il y en a d'autres. C'est, moi, je trouve ça super d'en parler, ce sujet-là, parce que faut réaliser notre rôle, faut qu'on arrête de se plaindre des autres, faut qu'on arrête de parler, de regarder la tache noire sur le mur blanc. Faut que le monde vienne ici, puis qu'il y ait le focus sur le blanc. Faut pas qu'il y ait un focus sur un noir, ils ont même pas besoin de savoir. S'ils s'en aperçoivent, là, faut que l'amour naisse en eux pour passer par-dessus les taches noires. C'est ça que la Bible a dit. Il y en a-tu une? Ah oui, il y en a une. Regardez, là. Il y a une tache noire sur le mur, là. Au niveau de l'enseignement puis de l'édification des disciples, ça nous dit, dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Le travail de Dieu, c'est de vous enseigner toutes choses, pour vous faire comprendre toutes choses, pour que vous ayez les révélations, les pensées de Dieu, la vision de Dieu. Il va vous changer, il va tout vous enseigner pour faire de vous des hommes et des ouvriers de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Mais, dans Matthieu 28, le verset 20, faut lire la Bible dans son intégralité, pas juste prendre un verset ici, puis se faire une doctrine avec un seul ou deux, trois versets qui parlent de la même idée. Il faut regarder l'ensemble de ce que la Bible dit. Matthieu 28, 20, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde, baptisez-les au nom du Père et du Fils, faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et, le verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Pourtant, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Mais il dit aux disciples, enseignez-leur à observer. Donc, on ne suit pas juste que Dieu va le faire. Puis là, on va dire, oh, le Seigneur, il dira. Moi, je me mêle pas de ça. Je vais laisser le Seigneur le convaincre. Non, c'est pas ça qu'il dit, le Seigneur. Le Seigneur, il dit, enseigne-lui, toi. Le Saint-Esprit va enseigner toute chose, mais il dit à toi, ouvrier du Seigneur, enseigne-le à observer. Emmène les gens à obéir. Explique. C'est pour ça que les ministères ont été donnés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire, vous devez être perfectionné dans le but, vous rentrez dans vos ministères. Puis c'est la job de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs d'enseigner pour équiper, pour que les gens commencent à travailler comme ouvriers du Seigneur. Pourtant, le Saint-Esprit, il a dit qu'il enseignera toutes choses. Mais il a choisi que le plan se passe, c'est à travers ses ouvriers. Puis ça, là, faut réaliser notre position, frères et sœurs. On a un rôle important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tous les disciples demain matin arrêtent d'évangéliser ou ils arrêtent de prêcher l'Évangile dans les églises, l'œuvre vient de s'estomper. Dieu il aurait pu tout faire par lui-même. Il n'avait pas besoin de nous, mais il a choisi de bâtir le système pour nous intégrer à son plan, puis qu'on participe à l'avancement de son œuvre. Donc, par mon intérêt à son œuvre, l'œuvre de Dieu va avancer, et comme par ma froideur, mon matièdeur, mon ralentissement, mon manque de zèle, peut-être même de la paresse, l'œuvre de Dieu peut être ralentie. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Si on regarde un autre sujet, comme au niveau de devenir fort dans le Seigneur, qu'on veut devenir des hommes et des femmes de Dieu inébranlables. Amen! Gloire à Dieu! 1 Pierre 5:10, il dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. » Amen, on veut le devenir, puis ça c'est le travail de Dieu. On est ouvrier avec Dieu, n'oubliez pas. Dans 2 Pierre 1:5, on voit l'autre côté de la médaille, que ça dépend, notre perfectionnement et notre croissance dépend aussi de nos efforts. Dans 2 Pierre 1:5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Là, on dit que Dieu va nous perfectionner, puis d'un autre côté, faites tous vos efforts à joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, car si ces choses sont en vous, puis qu'ils sont en abondance, ça vous laissera ni oisif, ni stérile. Ni stérile, vous ne serez pas stérile si vous mettez tous vos efforts. Vous allez avoir plein de fruits dans votre vie, puis c'est ainsi que l'accès, l'entrée dans le royaume des cieux vous sera pleinement accordé. Amen. Puis juste au verset 10, 5 versets plus loin, il dit, c'est pour ça, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, il y a le travail de la personne comme ouvrier du Seigneur à s'affermir. Oui, Dieu a dit qu'il nous affermira. Mais il veut qu'on travaille avec lui pour qu'on soit dans le mouvement, dans le travail, pour devenir plus ferme. Voulons-nous devenir inébranlables? Dieu le veut, ça fait longtemps. À partir du moment qu'on s'est converti, il voulait qu'on devienne inébranlables. Maintenant, si je pas arrivé après X années, peut-être que j'ai pas tout mis mes efforts, je serais supposé. Si je branle encore dans le manche, inébranlable, là, c'est branler dans le manche. Avez-vous déjà essayé de passer le balai avec un balai dont le manche, il tient pas après le bout, après la brosse? À chaque fois que tu donnes un coup, il se déconnecte. Tac, bon, ça y est, là, tu essaies de refiter ça, mais toi, t'es lousse. Il est pas inébranlable, il branle dans le manche. Mais quand tu es un chrétien qui branle dans le manche, Dieu il veut bien t'utiliser, mais le bout débarque à chaque fois qu'il veut t'utiliser. Mais là, on faut réaliser qu'il faut s'affiler. Si nos filets sont mangés, là, faut se raffiler pour pouvoir pogner après le bout, voyez-vous. Là, c'est un exemple comique, mais il y a une vérité là-dedans. Ça dépend de nous si on ne fait plus dans le trou, puis on ne tient plus. Dieu, ça arrivera pas que Dieu fasse pas son ouvrage. Parce que Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Puis Dieu compte pas de menterie, puis il fait pas de joke. Ce qu'il a dit qu'il ferait, il va le faire. Sa part à lui, c'est sûr que ça va se faire. Ça note qu'on peut avoir des doutes, mais là, comme on a chanté tantôt, fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, puis de faire marche arrière. Faut marcher avec le Seigneur. On est des ouvriers du Seigneur. C'est une nouvelle position qu'on a en Jésus. Puis on réalise que c'est pas juste le Seigneur qui travaille. On a notre part à faire. Puis on travaille comme ouvrier. On se lève les manches. Puis on prend la vie au sérieux. La vie chrétienne surtout. Puis on rentre dans le travail. On rentre dans notre appel, dans notre destinée. Faisons notre part. Puis Dieu va faire la sienne. Il y en a un des gens qui disent « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». C'est pas écrit dans la Bible, ça. Mais il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Fais ta part, Dieu va faire la sienne. Puis si ça aboutit pas, c'est probablement la nôtre qui est pas correcte. Parce qu'il y en a qui ont commencé à accuser Dieu. « Ah, c'est sa faute à Dieu, non. » Que Dieu soit tenu pour vrai et tout homme comme menteur. Les hommes sont menteurs. Dieu, il n'est pas menteur. Puisque nous travaillons avec Jésus, notre responsabilité est de bien réaliser notre rôle. Il faut le réaliser, puis il faut se mettre à l'ouvrage. Dans 2 Timothée 2,15, Paul il dit à Timothée, « Efforce-toi. » Pourtant, il dit, « Ah, mais Dieu n'a pas dit qu'il va le faire. » Non, Paul il dit à Timothée, « Efforce-toi. » Parce que dans cette période-là, Timothée, il n'a pas rien d'âme. Puis dans plusieurs passages, tu vois, dans les épîtres de Paul à Timothée, Paul est en train d'essayer de le motiver à réactiver les dons, à se rappeler ce qu'il avait reçu, puis à se remettre au travail. Il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui a pas à rougir. » Un ouvrier qui a pas à rougir. Ça veut dire un ouvrier qui sait que qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est correct. Parce que là, rouger, c'est quand qu'on parlera de rouger, mais devant Dieu, des fois, ça peut-tu des fois qu'on fasse des choses qu'on a honte, qu'on le sait que c'est pas correct. Mais il dit, force-toi de te présenter devant Dieu, parce que c'est devant Dieu que ça se passe, avec Dieu, mais devant Dieu, qu'on ne soit pas un ouvrier qui est à rouger, mais qui dispense droitement la parole, ou qui travaille à ce qui est appelé comme travaillant. Parce qu'il y en a des ouvriers que tu envoies dans les épîtres, là, dans les évangiles, il y en a un qui se fait traiter méchant, serviteur et paresseux. On doit réaliser il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rouger. Puis apprenons à travailler avec Dieu. Oublions pas que quand on fait les choses, Dieu est avec nous, puis Dieu va faire les choses en nous. On n'est pas en train de faire une religion, là. On est en train de laisser Dieu agir à travers nous. À chaque réunion qu'on est rassemblé, c'est dans la pensée, Dieu y est présent, Dieu va agir, Dieu va se manifester, Dieu va toucher des cœurs, Dieu va convaincre des gens, mais il va se servir de ce qu'on est en train de faire. Mais Dieu va agir. Faut voir au-delà de nos efforts. Dieu va répondre à nos prières. Dieu va convaincre des gens. Dieu va amener des gens à la repentance. Il va édifier des frères et sœurs. Dieu va guérir, va délivrer, il va manifester sa puissance. Dans le psaume 127, c'est le dernier verset, le verset 1. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. T'as beau être en train d'œuvrer, si t'as pas conscience que Dieu est avec toi, t'es en train de faire ce que Dieu demande, si t'as pas conscience là que Dieu est avec toi, mais ce que t'es en train de faire, ça sert à rien. Faut le comprendre que Dieu est avec nous, quand on fait de quoi, il le fait à travers nous. On sert, oui, mais Dieu est en moi, puis Dieu agit à travers les autres. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Puis si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, dans la suite, nous sommes des ouvriers avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. On a Christ vit en nous. À cause de cela, on est enrôlé dans sa vigne, puis on a une part à faire pour faire avancer cette œuvre-là. Êtes-vous de ceux qui veulent servir le Seigneur, travailler avec le Seigneur, et voir la main du Seigneur à travers vos vies? Bien, on va prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole, les beaux versets qui sont là pour nous faire comprendre notre responsabilité en tant qu'ouvriers. On veut travailler avec toi. Nous croyons que tu vas agir avec nous pour le salut des âmes et pour l'édification des frères et sœurs. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous. On te remet nos vies. Apprends-nous à être à l'écoute de ta voix. Montre-nous ce que tu t'attends de nous. Et merci de ce que tu vas faire. On veut rassembler avec toi. On veut bâtir avec toi dans le nom de Jésus. Amen.